France Inter.
Aujourd'hui, les origines africaines d'Homo sapiens, racontées par
Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue, professeur au Collège de France.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Pendant longtemps, une question a traversé la paléoanthropologie comme une ligne de fracture. Où commence vraiment notre histoire? En Afrique, disaient les uns, ailleurs en Eurasie, peut-être, suggéraient d'autres, faute de fossiles, pour trancher. Entre 1 million et 600 000 ans avant notre présent, les archives humaines semblaient muettes. Et puis, sur la côte atlantique, au Maroc, à Casablanca, dans une ancienne carrière, ce silence a commencé à parler. Dans une grotte longtemps fréquentée par des hyènes, des mandibules humaines, des dents, des vertèbres ont refait surface datée précisément de 773 000 ans. Ces fossiles occupent une place stratégique dans notre arbre généalogique. Ils se situent exactement au moment où les lignées humaines commencent à diverger. Celle qui mènera à Homo sapiens en Afrique, celles qui donneront plus tard naissance aux Néandertaliens et aux Denisoviens en Eurasie. Leur morphologie est déroutante, ni tout à fait archaïque, ni pleinement moderne, avec une mosaïque de traits, un stade intermédiaire. Ce que ces fossiles racontent, ce n'est pas l'apparition soudaine d'une nouvelle espèce, mais une continuité. Et surtout, ils viennent combler un vide qui avait nourri pendant des décennies l'hypothèse d'une origine non africaine de notre espèce. Les racines profondes d'Homo sapiens sont donc bien africaines, mais cette découverte ne dit pas tout. Elle réinscrit l'Afrique du Nord-Ouest comme un territoire central de l'évolution humaine, à une époque où le Sahara était vert, traversable, et où les populations humaines circulaient bien plus qu'on ne l'imaginait. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Cette découverte a été effectuée sur le site de Carrière Thomas 1 à Casablanca, précisément dans la grotte à Hominidés. Les fossiles ont été datés à 773 000 ans, ce qui en fait à ce jour les plus anciennes preuves fossiles humaines connues au Maroc. Ils pourraient correspondre à une phase très ancienne de l'évolution humaine antérieure à l'Homo sapiens, dont les plus anciens restes connus sont datés d'environ 315 000 ans.
Extrait de Midi TV Afrique, c'était le 8 janvier dernier. Bonjour Jacques Hublin.
Bonjour.
La découverte de ces fossiles de mâchoires et de dents trouvées donc près de Casablanca au Maroc ont fait l'objet d'une publication dont vous êtes le premier signataire dans la revue Nature, c'était le 7 janvier. C'est un peu votre cadeau de bonne année que vous nous offrez là?
Ah, c'est une année qui commence en fanfare.
Oui, mais vraiment. Hein.
Oui.
C'est une très belle découverte, là encore.
Oui, oui, et puis surtout, c'est une très belle collaboration entre des chercheurs vraiment de spécialités complètement différentes. On est 29 co-auteurs de ce papier, même si je suis un peu le porte-parole aujourd'hui. Voilà, c'est un travail qui implique des disciplines très différentes.
Ouais. On va raconter toute l'histoire justement de cette découverte qui s'est donc passée dans cette carrière, la grotte à Hominidés près de Casablanca, où ont été retrouvés donc ces fossiles en 2008 et 2009. C'est un site qui est fouillé depuis maintenant très longtemps. En quoi ce complexe archéologique est particulier justement dans l'histoire de la paléanthropologie nord-africaine?
La région du littoral atlantique marocain, dans la région de Casablanca et jusqu'à Rabat, c'est un petit peu un paradis paléontologique et archéologique. Hein.
Mais pourquoi? Comment on l'explique ça?
Alors c'est lié à des situations géologiques très particulières. Le continent africain qui est en collision avec la plaque européenne, dans cette région d'Afrique, a tendance à monter lentement. Et donc, au cours de cette remontée lente de la plaque continentale, eh bien, il y a des transgressions marines qui viennent battre, si je peux dire, cette côte et qui laissent des dépôts de dunes qui creusent des falaises, qui creusent des cavités, qui elles-mêmes se remplissent à nouveau de sédiments. Et tout ça est emporté graduellement vers l'intérieur des terres. Et donc, en se déplaçant du littoral vers l'intérieur du continent, eh bien, on voyage dans le temps et on a l'enregistrement de toutes ces périodes du passé avec des dépôts qui sont propices à la conservation des ossements et des sites archéologiques.
Mais ces mouvements-là que vous nous décrivez, mouvements géologiques, est-ce que c'est propice à la datation en revanche? Parce que ce qui a pas une tendance à mélanger précisément tous les sédiments?
Ces mouvements géologiques, ils sont propices à la datation à, disons, une échelle assez grossière. Pourquoi ? Parce que ben, on connaît à peu près la date de tous ces mouvements marins et la vitesse de montée du continent. Donc on sait bien que quand on est à plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres, on est assez loin dans le passé. Alors maintenant, la datation précise d'un site dans ce genre de contexte, là c'est une autre affaire.
On va en parler tout à l'heure.
Hein. D'autres méthodes.
C'est ça. Parce que là, on a vraiment une datation extrêmement précise. Restons évidemment sur ce site, parce que c'est intéressant de raconter aussi un petit peu l'histoire. La première découverte humaine, elle remonte à quand, vraiment sur place,
donc
à,
au Maroc. C'est un jeune homme hein, qui s'appelle Philippe Berriro, qui en 1969, comme moi d'ailleurs, à la même époque, se promène dans les carrières pour ramasser des fossiles.
Et vous êtes déjà sur place, vous, à l'époque ?
Ah non, moi je travaille plutôt dans les carrières de la région parisienne à ramasser des mollusques. Mais lui, il trouve une mandibule humaine. Et il va aller la montrer à la faculté des sciences. Et donc, c'est la première découverte d'un fossile dans cette carrière, qui en fait est un complexe de sites de différentes époques et qui va donc être reconnu et donner lieu... Alors, plus tard. Hein,
parce que cette mandibule, elle est restée longtemps assez énigmatique quand même.
Oui, c'est-à-dire qu'on l'a publiée, on l'a décrite. Honnêtement, on ne savait pas très bien ce que c'était. Voilà. Ouais. Et donc, dans les années 90, une équipe franco-marocaine dirigée par Jean-Paul Reynal et Fatima Zora El-Alaoui entreprend de fouiller une petite grotte qui a livré cette mandibule. Alors, c'est un travail assez long, fastidieux, parce que c'est un sédiment très, très dur. Et il faut attendre la fin des années 2000 pour qu'on trouve d'autres restes humains. Alors, entre-temps, on a trouvé de la faune, des outils en pierre taillée.
Avant même, d'ailleurs, les restes humains.
Hein. Oui, oui, bien sûr. C'est... Donc, c'est un site, entre guillemets, archéologique, encore qu'on pensait essentiellement une tanière de carnivores, en fait. Et donc, ils vont trouver en 2008-2009
une troisième mandibule,
des vertèbres. Il y a un fémur aussi qui a été découvert dans le site.
Ouais.
Donc, un matériel qui s'étoffe. On m'appelle sur place pour voir cette mandibule en cours de dégagement. Et c'est vrai qu'à l'époque, elle me paraît très intrigante, on va dire, par ses caractéristiques, alors qu'elle est encore dans le sédiment. Un des problèmes de l'interprétation de ce matériel qui va être dégagé dans les années qui suivent...
Parenthèse, comment on dégage justement un fossile
On le dégage, vous savez, sous une loupe binoculaire avec une espèce de micro-marteau-piqueur.
Oui, c'est ça. Hein.
Ça prend des mois, des années, c'est très très long. Donc on a fait venir un technicien d'ailleurs du Kenya hein, pour faire ce travail, c'était assez laborieux. Et... En fait, le problème de l'interprétation de ces restes qui sont un petit peu énigmatiques, c'est l'âge. En fait, on connaît pas très bien leur âge. Et il va falloir que d'autres chercheurs travaillent dans le site pour qu'on puisse résoudre ça.
Ouais. Alors justement, la question de la datation, elle est absolument centrale parce que les méthodes classiques, ça fonctionne pas là, justement, pour dater cette mandibule hein ?
Alors, les méthodes classiques, elles sont plus ou moins bonnes, si je peux dire, hein, plus ou moins fiables.
Elles précises. Ont été testées quand même ou pas du tout ?
Oui, alors, on a des dates dans d'autres sites. D'ailleurs, entre nous, ça questionne un peu parfois la validité de ces dates dans d'autres sites. Hein.
Ouais.
Parce que là, dans le cas de la carrière Thomas, on a des dates qui sont relativement jeunes par rapport en particulier à ce que la faune nous dit. Denis Gérard, qui étudie les mammifères qu'on trouve dans ce site, dit que c'est un assemblage qui ne peut pas avoir les 400 ou 500 000 ans que ces méthodes lui attribuent.
Ouais. Et donc là, comment vous datez ça ? Alors, quelle méthode vous employez pour dater cette mandibule précisément, ou ces fossiles ?
La percée va intervenir en fait assez tardivement, à partir de 2020. Donc David Lefebvre, qui a repris la direction de l'équipe française en particulier, collabore avec des chercheurs de l'université de Milan, qui sont des spécialistes de ce qu'on appelle le paléomagnétisme. Paléomagnétisme, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'analyse dans des sédiments anciens de l'orientation du champ magnétique terrestre et de son évolution au cours du passé. Parce qu'il faut savoir que le pôle Nord n'est pas toujours au pôle Nord, il est parfois au pôle Sud.
Ouais, ouais.
Et donc, de façon un peu imprévisible, aléatoire, il y a des inversions du champ magnétique terrestre. On les connaît très bien parce que, évidemment, elles affectent toute la planète. On les a étudiées dans des centaines de sites de par le monde. Et donc, il se rend compte qu'en fait, ces sédiments de la carrière Thomas sont particulièrement propices à l'enregistrement de ces inversions de champs magnétiques terrestres. Et ils vont en détecter une qui est très célèbre, très connue, qui s'appelle Brune Matsuyama. limite entre le Pléistocène inférieur et le Pléistocène moyen, et on sait...
Donc ça, c'est pour nous donner des dates précises.
Voilà, alors à quelques milliers d'années près quand même, hein, c'est 773 000. Alors le coup de chance extraordinaire, c'est que cette transition entre une période qu'on appelle inverse et puis la période normale qui prévaut encore aujourd'hui, hein, eh bien, on la reconnaît dans le site et elle correspond exactement au niveau dans lequel on a trouvé ces mandibules.
Non, mais c'est incroyable, non ?
Ah oui, c'est un coup de chance.
C'est-à-dire qu'il y a l'inversion du champ magnétique à 773 000 ans, et bim, les fossiles ont exactement le même âge.
Oui, enfin, eux, ils n'y sont pour rien.
Ah ben non, bien
sûr. Mais on a cette date. Alors, il faut se rendre compte que pour beaucoup de sites de ce genre de période, on publie des dates, hein, mais ces dates sont quand même données généralement avec des grands intervalles de confiance. Elles sont assez peu précises souvent. Mais là, pour le coup, à quelques milliers d'années près, on est sûr de notre coup.
Donc, on remercie l'inversion du champ magnétique, hein, qui permet donc de retrouver la bonne datation. C'est assez exceptionnel, d'ailleurs, pour des fossiles de cette ancienneté, d'avoir une datation comme ça, ou pas ?
Oui, absolument. Parce que, ben justement, la plupart des autres sont datés par les méthodes dites classiques. Ces méthodes classiques, alors, elles marchent relativement bien quand on a un contexte archéologique, géologique. Donc, en fait, ce qu'on date, ce n'est pas les fossiles, c'est ce qu'il y a autour.
C'est ce qu'il y a autour, oui.
Mais pour tous les fossiles qui ont été découverts jadis et qui maintenant sont hors de tout contexte stratigraphique, franchement, bien qu'on essaye, hein, mais on n'a pas de moyen de dater directement des crânes qui ont 500 000 ans, 1 million d'années ou plus.
Cette datation, elle vous surprend ou pas, Jean-Jacques Hublin, quand vous en prenez connaissance ? D'ailleurs, c'est quand exactement que vous avez la réponse ? Parce que...
Alors, la réponse définitive, si je peux dire, elle est venue en 2022.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est assez récent.
Donc, entre la découverte en 2008 et 2009 et 2022, il s'écoule toute cette période de temps. Donc, il faut être patient quand même. Hein.
À la préhistoire, ça dure longtemps.
Mais c'est pour la question de datation, d'ailleurs, que ça a été aussi long ou pas ?
Oui, bien sûr. Parce que c'est très difficile de donner une interprétation à des fossiles comme cela sans savoir de quand ils datent. Hein. Ouais. Évidemment, on voit bien qu'ils ne sont pas comme des gens d'aujourd'hui, mais il faut quand même pouvoir les situer dans le passé.
Donc comment vous recevez, vous, cette datation ?
Ah ben, c'est assez formidable d'avoir cette date, parce que bon, d'abord, on a une date précise, et ensuite, il se trouve que cette date tombe dans un trou, si je peux dire, de la documentation fossile en Afrique.
Ouais.
En Afrique, on a pas mal de fossiles avant 1 million d'années. On en a après 500 000. Là, on n'en a pas beaucoup. Et donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable.
Mmh. Qu'est-ce que ça change, cette précision chronologique, justement, dans la lecture scientifique du site marocain, précisément ?
Bien, encore une fois, c'est assez exceptionnel de pouvoir caler l'évolution d'un site et de ses occupants avec autant de précision dans ce genre d'horizon de temps.
Oui.
Et il se trouve aussi que cette période dont on parle, c'est une période qui est assez critique du point de vue de l'évolution humaine. On vit aujourd'hui dans un monde où il y a une seule espèce humaine,
qui
peuple toute la planète, qui est très homogène. Autrefois, ça n'était pas comme ça. Il suffit de remonter, il y a seulement 40 ou 50 000 ans dans le passé, et on a une grande diversité de formes humaines, parfois très différentes les unes des autres. Et l'origine de cette diversité, eh bien, on la place justement dans cette fenêtre de temps. Donc, de ce point de vue-là, ce sont des fossiles clés pour discuter de cette question.
Ouais. D'où l'importance également de pouvoir les extraire avec délicatesse de cette roche très dure que vous venez de nous décrire, Jean-Jacques Hublin. Ces fossiles sont donc solidement datés, replacés dans leur contexte archéologique et environnemental. Reste maintenant à comprendre pourquoi, justement, ils occupent une place si stratégique dans notre histoire évolutive. C'est ce qu'on va voir dans un instant avec vous, Jean-Jacques Hublin.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Ces hominines, en fait, ont à la fois occupé les grottes, mais à la fois certains ont été consommés par des carnivores eux-mêmes habitant les grottes. Il s'agirait probablement de hyènes pour ce fémur. Les traces de dents, la destruction montrerait qu'il s'agit de hyènes. Et on a des restes de hyènes dans cette grotte. Dans l'autre grotte, qui est la grotte des rhinocéros, qui est un petit peu plus ancienne, 900 000, là, on a trouvé ce qu'on appelle des stries de boucherie, sur des restes notamment d'antilopes, de zèbres anciens, qui montreraient qu'ils ont récupéré la viande.
Ces découvertes sont cruciales pour comprendre l'essor de ces hommes préhistoriques, surtout que la consommation de viande marque un tournant décisif dans le développement de l'humanité.
La voix de la scientifique Camille Daujard. Nous sommes avec le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin cet après-midi pour parler donc de cette découverte au Maroc, près de Casablanca, de fossiles préhumains qui viennent trancher donc un grand débat sur les origines africaines de l'homme moderne. Puisqu'on parle de hyènes dans cet extrait, Jean-Jacques Hublin, quel rôle ont joué les carnivores dans l'histoire de la grotte, là où ont été trouvés justement les fossiles et cette mandibule en particulier ?
Les hominines, les humains, au cours du dernier million d'années et même avant, ont été en permanence en concurrence en fait avec les carnivores.
Ils vivaient, on peut dire qu'ils vivaient avec eux, bah, quasiment.
Ils étaient en concurrence pour l'acquisition de proies, de gibier, et puis ensuite aussi un peu en compétition pour l'occupation de cavités comme ça. Ouais. Donc très souvent dans beaucoup de sites, on a une alternance. Tantôt c'est les hyènes ou les panthères et tantôt les humains qui sont là. Mais fréquentation, si je peux dire, des carnivores se termine pas toujours bien pour les humains.
Et les os en témoignent.
Oui, oui, hélas, on a ce fémur que Camille Daujard a décrit, qui a des traces de
morsures.
Morsures par un grand, gros carnivore, probablement une hyène.
Ouais.
Alors, est-ce qu'il a été chassé, tué ? C'est possible. Est-ce qu'il a été... est-ce que c'est une carcasse, cadavre qui a été emporté dans cette tanière par des hyènes ?
On n'a pas le scénario.
Voilà.
En tout cas, il y a de la morsure sur les os humains et ça témoigne aussi d'une histoire avec cette faune présente donc dans cette grotte de Casablanca. On parle souvent, donc, vous le disiez, d'un trou dans la documentation fossile africaine. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette lacune, là, précisément. De quoi il s'agit, alors, dans les connaissances ?
Bah, c'est un peu pas de chance, hein. C'est juste qu'on a, on a des fossiles, disons jusqu'à un million d'années, on a quand même pas mal de fossiles, alors surtout en Afrique de l'Est.
Oui.
Et puis ensuite, il va falloir attendre plusieurs centaines de milliers d'années en Afrique de l'Est, du Sud, pour trouver d'autres fossiles. Alors cette absence de fossiles, c'est une absence de données. Dans le fond, encourager certains à spéculer sur les ancêtres d'Homo sapiens au-delà de 300-400 000 ans, on ne les a pas en Afrique, donc peut-être qu'ils sont ailleurs.
Donc en Eurasie, par
exemple.
Ouais. Ça c'est un vrai... c'était, parce que justement, vos découvertes ont clôturé le débat. Mais ça, c'était un débat très vif.
Très vif.
Ou pas.
En fait, il faut bien se rendre compte qu'il y a quand même là-dedans une partie au départ d'eurocentrisme, parfois même un peu de chauvinisme. Hein. Donc au début du XXe siècle, on n'imaginait pas que l'origine de l'humanité puisse être ailleurs qu'en Europe.
Oui, hein. C'est ça.
Et l'origine africaine des humains n'a été acceptée que assez progressivement et parfois difficilement. En Chine... certains scientifiques sont toujours accrochés, si je peux dire, à un modèle qui avait sa place au milieu du XXe siècle, où on pensait alors que peut-être les humanités actuelles, on parlait de race, hein, les humanités actuelles avaient des origines séparés dans différents continents. Donc, en gros, les Homo erectus chinois avaient donné naissance aux Asiatiques actuels, les hommes de Néandertal aux Européens actuels. Alors, ça a été pratiquement complètement abandonné pour des raisons qui tiennent à la fois à la découverte de fossiles. Tous les Homo sapiens anciens qu'on connaît sont soit en Afrique, soit à la sortie d'Afrique au Proche-Orient. Et puis, surtout pour des raisons génétiques, hein, c'est-à-dire le développement du séquençage d'ADN a montré que la seule interprétation possible qu'on avait des données sur les populations actuelles, c'est une grande diversité de lignées en Afrique. Et ce qu'on trouve en dehors d'Afrique, c'est une espèce de branche sortie d'Afrique, qui s'est diversifiée en Eurasie, puis plus tard est allée en Australie et dans les Amériques.
Jean-Jacques Hublin, pour juste resituer un peu les choses, histoire de pas trop nous perdre, il y a quand même un consensus sur le berceau africain de l'humanité. Ça, là-dessus, scientifiquement, c'est quand même difficile de pouvoir imaginer autre chose. Là, la discussion, c'était vraiment sur les origines des préhumains, c'est-à-dire
d'Homo sapiens.
D'Homo sapiens. Oui. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes échelles de temps.
Quand on parle d'origine de l'humanité, il faut bien voir de quoi on parle. Hein. Sur 7 millions d'années d'évolution des hominines, hein, ou plus, depuis la séparation avec les chimpanzés, oui. Ben les 5 premiers millions d'années, ça se passe en Afrique exclusivement.
Donc c'est Toumaï, Aurori,
voilà, les Australopithèques, Lucie, etc. Et puis il va y avoir une première sortie d'Afrique, probablement autour de 2 millions d'années, et puis après il va y en avoir d'autres. Et dans le fond, là, ce qui est en jeu, c'est de savoir si notre espèce, Homo sapiens, eh bien, elle est le fruit d'une évolution locale en Afrique à partir d'une lignée particulière, ancienne, ou s'il n'y a pas eu une espèce de mouvement d'aller-retour, c'est-à-dire quelque chose qui serait apparu en Eurasie et qui serait retourné en Afrique pour donner les plus anciens sapiens qu'on connaît à Djebel Irhoud ou ailleurs.
Alors Jean-Jacques Hublin, il y avait donc un trou dans les connaissances à ce moment-là et la découverte vient combler justement ce point crucial, cette lacune on pourrait dire. Et ça, c'est très important pour raconter aussi l'évolution humaine, hein, de pouvoir avoir ce fossile et cette datation-là particulière.
Oui, bien sûr, parce que l'ADN, c'est bien, hein. Surtout quand on parle de l'ADN actuel, ça nous raconte une histoire sur le passé, mais ça ne nous dit rien de où et quand ces événements se sont passés. Or, quand, oui, un petit peu, avec beaucoup d'incertitudes, mais où, pas du tout. Et donc, là, on est obligé de mettre dans cet arbre, de le remplir, de le peupler avec des vrais fossiles qui sont découverts dans des lieux géographiques précis, avec un âge précis.
Sur le plan morphologique, alors qu'est-ce qui montre exactement ces fossiles ? On peut redire donc qu'il y a la mandibule, hein. Vous avez découvert quoi d'autre ?
Alors il y a trois mandibules en fait, hein. Il y a deux mandibules d'adultes.
Adultes, c'est ça.
D'ailleurs assez différentes en taille surtout, c'est peut-être du dimorphisme sexuel. Et puis il y a une mandibule de bébé, enfin un an et demi, quelque chose comme ça. Il y a des vertèbres qui sont associées à une des mandibules, c'est assez bizarre d'ailleurs.
D'enfant ou...
Non,
d'adulte. Ou d'adulte ?
C'est-à-dire qu'on a une mandibule d'adulte avec le cou qui va avec.
Ouais.
Donc j'ai en tête l'histoire des hyènes, hein. C'est un petit peu bizarre comme assemblage, c'est pas très habituel. On a des dents isolées, on a ce fameux fémur, on a tout un assemblage osseux.
Et donc ces fossiles, morphologiquement, ils racontent quoi alors ?
Ils ont une mosaïque de caractères à la fois archaïque, primitif. Donc, il les raccroche à ce qu'on appelle Homo erectus en Afrique.
Oui.
Mais, et c'est la grande différence entre ces fossiles et ce qu'on trouverait, par exemple, en Asie. J'ai parlé tout à l'heure des Homo erectus asiatiques qui perdurent jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Ils présentent en même temps des caractères qu'on va trouver plus tard chez les sapiens. Et donc, en fait, ils ont une combinaison de caractères qui les place de façon, alors je dirais pas idéale, mais en tout cas de façon très plausible, sur une ligne évolutive qui va d'Erectus africain vers l'origine de notre espèce.
Donc, c'est une sorte de chaînon manquant entre Erectus et sapiens.
Voilà, on peut dire ça.
Et donc, ces fossiles, ce sont des transitions extraordinaires pour justement réécrire l'histoire. Enfin.
Ce qui est important, c'est qu'on a... En Espagne, à peu près à la même époque, vers 800-900 000, on a des fossiles qui ressemblent pas mal quand même, mais qui, eux, semblent être déjà orientés dans la direction de Néandertal. Et, soit en passant, une des questions que posent ces découvertes, c'est que la date de divergence entre, dans le fond, le monde africain qui va donner Homo sapiens et le monde eurasiatique qui va donner les ancêtres de Néandertal et des Denisoviens, eh bien cette divergence, elle est probablement plus ancienne que ce que les paléogénéticiens nous disent.
Ouais. On va justement, pour évoquer toujours ces fossiles, parler de l'Espagne aussi, Atapuerca. Et pour en parler, on va écouter le reportage de la chaîne YouTube Le Blob en 2019.
Sur le gisement de Grande Dolina, ont été trouvés de nombreux vestiges datés de 800 000 ans, appartenant à cette espèce baptisée Homo antecessor.
Au total, nous avons récupéré ici, dans le gisement de Grande Doline, quelques 120 restes humains de cette espèce appelée l'Homo antecessor. Les restes sont très fragmentés, car ici a eu lieu un cas de cannibalisme il y a près d'un million d'années. Ces vestiges sont les restes humains les plus anciens jusqu'à présent, aussi bien dans la vallée d'Atapuerca qu'en Europe occidentale, et prouvent que les premiers hommes avaient déjà atteint la péninsule ibérique il y a plus d'un million d'années.
À la péninsule ibérique.
Homo antécesseur, 800 000 ans, Jean-Jacques Hulin. Oui. Bah, on est exactement dans les mêmes datations
alors,
les fossiles marocains.
Bon,
hein.
Moi, je suis un peu réservé sur l'utilisation du terme Homo antécesseur. Les différences qu'on a entre ces formes marocaines et les formes espagnoles, c'est pas loin. Hein. C'est juste de l'autre côté du détroit de Gibraltar. Sont des différences interpopulationnelles, comme on dit, hein, c'est-à-dire c'est de la variation à l'intérieur d'une espèce entre des groupes géographiques différents.
Ouais, certains ont vu dans, justement, Homo antécesseur, une sorte de d'ancêtre commun à toutes les lignées humaines.
Hein. Alors maintenant, justement, qu'on a d'autres éléments comparatifs de la même époque, on voit justement que cette divergence, elle est déjà engagée. Alors, elle commence à peine, mais elle est déjà engagée. Et donc, d'ailleurs, un collègue espagnol a publié un article de commentaire sur notre papier dans Nature, sorti en même temps que notre article. Et voilà, il admet complètement cette idée que, oui, entre guillemets, antécesseur, est déjà parti un petit peu dans la direction néandertale.
Ça raconte quoi, justement, des déplacements des populations humaines, alors, ces fossiles hein?
Alors, une question que ça pose, c'est, dans le fond, cette séparation entre le monde africain et le monde eurasiatique, est-ce que c'est une séparation brutale, si je peux dire, ou est-ce que c'est un divorce progressif?
Et alors, votre hypothèse?
Alors, moi, je pense que c'est un divorce progressif. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que peut-être les modèles que proposent les paléogénéticiens ont autant de mal à définir une date de séparation, parce qu'il n'y a pas de date de séparation claire. Ouais. Et donc, une des questions que ça pose, notamment, c'est est-ce qu'à travers le détroit de Gibraltar, il y a eu des échanges de populations dans le passé. C'est une vieille histoire qui revient, c'est un serpent de mer de la paléanthropologie. Mais au fil des variations des niveaux marins, le détroit de Gibraltar, de temps en temps, était plus étroit avec des îlots intermédiaires. Et donc, ce n'est pas complètement inconcevable qu'il y ait eu des échanges aussi dans cette région-là.
Jean-Jacques Hublin, on parle avec vous de la découverte de ces fossiles pré-humains d'Homo sapiens, donc au Maroc, près de Casablanca. Vous êtes notre invité cet après-midi dans La Terre au Carré.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
La chose est assez simple, nous avons suivi l'Homo sapiens, nous avons étudié l'Homo sapiens. Or, à partir de 30 000 ans, on ne trouve plus de squelette d'Homo sapiens. Il semble que l'Homo sapiens n'existait pas avant 30 000 ans.
Bon, alors 30 000 ans, nous y sommes, c'est en fait Adam et Ève.
Non, pas du tout. Sans ça, notre émission serait terminée.
Qu'est-ce que l'on sait de l'apparition de l'Homo sapiens? Est-ce qu'on sait comment il est apparu?
Non, c'est le grand mystère. Jusqu'à présent, on ne sait pas exactement de quel rameau, d'où est sorti l'Homo sapiens. Ce que l'on sait, c'est qu'il a remplacé l'homme de Néandertal.
Voilà, une archive de 1963 de l'ORTF avec un paléontologue qui s'appelle Jean Piveteau. Jean-Jacques Hublin, vous-même, vous êtes paléoanthropologue et vous avez un lien avec Jean Piveteau. Alors j'aimerais d'abord qu'on commente l'archive et ensuite que vous nous racontez le lien que vous avez avec lui.
30 000 ans, c'est pas mal deviné, il manque juste un zéro.
C'est ça, exactement.
aujourd'hui, on est plutôt à 300 000 qu'à 30 000.
C'est-à-dire qu'en 1963, on ne pouvait pas imaginer qu'Homo sapiens ait plus de 30 000 ans.
Bien sûr. Ouais. Et surtout, on n'imaginait pas qu'il ait des origines africaine. Ouais. Mais oui, Jean Piveteau, évidemment, c'est un souvenir qui est cher à mon cœur parce que je l'ai connu alors que j'étais étudiant et que lui était un vieux professeur, membre de l'Académie des sciences. Et c'est lui qui m'a confié pour étude la mandibule d'enfant de Djebel Irhoud III. Je vous parle du temps où les bêtes parlaient. Hein, mais voilà, il m'a mis le pied à l'étrier pour l'étude de ces sites marocains, en fait.
Et qui vous ont permis de faire des découvertes incroyables, qui ont bousculé aussi l'histoire de la lignée humaine, quand même. Bah, dites-le-nous, parce que...
Eh bien, non, mais c'est... Bon, l'histoire de la paléanthropologie, c'est, en fait, quelques générations de gens qui grimpent les uns sur les épaules des autres, si je peux dire.
Qui se passent des relais et des fossiles.
Qui se passent des relais, des fossiles. Et c'est vrai que cette étude de la mandibule Djebel Irhoud m'a emmené au Maroc, poussé à reprendre des fouilles dans ce site bien des années plus tard. Et puis finalement, dans les années 2017 précisément, abouti à une publication assez, extraordinaire, en tout cas qui a eu un grand impact, parce qu'elle a vraiment remis en cause, si je peux dire, les modèles d'apparition d'Homo sapiens qu'on avait jusque-là.
Et là, on a daté justement le plus ancien fossile d'Homo sapiens à 300 000 ans. Même, pour être tout à fait exact, 311 000 ans,
c'est ça? Alors, c'est entre 300 et 315, mais bon, on ne va pas chipoter. Hein.
Dans ce gisement marocain de Djebel Irhoud, donc ça, c'était une publication un peu plus ancienne, mais qui a fait la une des médias du monde entier. Et là, donc, très récemment, en janvier dernier, vous faites la une de Nature avec cette nouvelle mandibule, 773 000 ans. Décidément, le Maroc nous livre des fossiles extrêmement intéressants.
Oui, le Maroc est très très riche du point de vue paléontologique. C'est une des trois fenêtres qu'on a en Afrique sur le passé lointain de l'humanité avec l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud.
Ouais.
Bon, c'est lié à des conditions de conservation.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Tout à fait particulières. Hein. Et puis, il y a aussi une activité importante des scientifiques, à la fois marocains et puis d'équipes internationales.
Jean-Jacques Hublin, vous utilisez souvent l'image d'un buisson plutôt que celle d'une lignée, justement, linéaire, pour parler de notre humanité. Qu'est-ce qu'on entend par là, justement? Un foisonnement? Il faut se représenter les
choses
comme ça?
Tout le monde a en tête cette image d'un singe qui se redresse et qui finit en regardant un téléphone portable. En fait, l'évolution humaine, ça n'est pas du tout cette ligne droite. C'est une multitude de rameaux qui ont évolué les uns aux côtés des autres. Et évidemment, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer pour nous. C'est-à-dire un monde où il y a plusieurs humanités, des humanités différentes les unes des autres, mais différentes... pas comme sont différents des populations actuelles, vraiment différentes. Et là, on a beaucoup de mal à intégrer cette image. Mais en fait, c'est la situation normale, si je peux dire. Et ce qui s'est passé il y a environ 50 000 ans, c'est qu'une de ces espèces, la nôtre, s'est mise à envahir absolument l'ensemble de la planète. Elle a fini par atteindre les zones les moins habitables, les îles les plus lointaines. Et aujourd'hui, elle est partout. Et donc, cette espèce que j'ai parfois qualifiée d'espèce invasive, eh bien, elle a en même temps sonné un peu le glas de toute cette diversité qui avait prévalu jusqu'alors.
Il y a 773 000 ans, il y avait combien d'humanités différentes alors, d'espèces différentes?
Il y en avait plusieurs, mais le problème, c'est que les humanités qui ont existé il y a 200 ou 300 000 ans, on les connaît assez bien, parce qu'on a des fossiles d'hommes de Néandertal en Europe, des Denisoviens en Asie. On sait que dans les îles des Philippines, d'Indonésie, il y a aussi des créatures très très étranges. En Afrique même, on a à côté d'Homo sapiens probablement au moins une ou deux autres espèces assez différentes. Alors quand on remonte beaucoup plus loin dans le temps, à cause d'un peu de ce trou dans la documentation, on peut seulement spéculer la diversité de ces groupes, mais il y a toutes les raisons de penser qu'il y avait une très très grande différente population dans différents coins de l'ancien monde.
On peut imaginer des cohabitations où ces espèces restaient quand même assez éloignées les unes des autres.
Alors ces espèces, elles se côtoient. Elles ne vivent pas ensemble dans la même grotte. Mais disons qu'il y a des zones frontières où il va y avoir des contacts. Surtout, elles se remplacent les unes des autres. Il y en a qui s'éteignent, d'autres qui les remplacent. Ce qu'on a découvert, notamment grâce à la paléogénétique, c'est que tous ces remplacements et tous ces contacts, eh bien, ça a donné presque à chaque fois... ça a donné lieu à des échanges génétiques.
Oui.
Donc, il y a toujours un petit peu d'ADN qui passe d'une espèce dans l'autre. Et ça, c'est une grande découverte, dans le fond, de la paléogénomique. Parce qu'on imaginait, pas seulement les espèces d'hominines, mais les espèces de n'importe quoi, d'éléphants, de carnivores, de primates, on les imaginait beaucoup plus isolés sur le plan reproductif. On se rend compte maintenant que c'est absolument trivial quand des espèces se séparent pendant plusieurs centaines de milliers d'années, voire plusieurs millions d'années, elles gardent une certaine possibilité d'hybridation avec des espèces voisines, même si il n'y a pas de ticket de retour. C'est-à-dire qu'elles continuent à diverger, mais en même temps, elles récupèrent un peu d'ADN des voisins.
Est-ce que cette découverte justement de cette mandibule 773 000 ans, ça clôt totalement le débat sur une origine non africaine de nos ancêtres Homo sapiens ou pas ?
Enfin, de mon point de vue, l'origine non africaine d'Homo sapiens...
C'est plié.
Mais surtout, la charge de la preuve, elle est du côté de ceux qui veulent démontrer ça. Alors, il y a eu un papier, il y a quelques mois, par des collègues chinois, qui ont dit, voilà, on a un fossile qui... ils ont appelé Homo longi, qui pourrait être un groupe frère des Homo sapiens. Alors, groupe frère des Homo sapiens, c'est une façon polie de dire... Homo sapiens a peut-être une origine là-bas, en Extrême-Orient. Alors, en fait, depuis, il y a eu une analyse paléogénétique qui a été réalisée sur ce fossile d'Homo longi et qui montre clairement que c'est un dénisovien. Donc, je pense que les faits s'accumulent pour renforcer cette origine africaine de notre espèce.
Concernant les sites de fouilles à Casablanca, je voudrais écouter votre confrère Jean-Paul Rénal.
Aujourd'hui, les sites classiques de la préhistoire de Casablanca sont sous la ville. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus jamais d'ouverture de carrière. Tout se passe en souterrain, tout est bétonné immédiatement, etc. Il n'y a plus d'accès à des coupes naturelles ouvertes pour le géologue et le préhistorien. Donc cette période est révolue à Casablanca. On ne pourra plus accéder à des sites. Il est d'autant plus important de conserver ceux qui sont ouverts et menacés par le remblaiement, vous le voyez, comme la carrière Thomas.
Voilà, Jean-Paul Rénal, qui est également signataire de la publication Nature.
Et qui est le découvreur de ces fossiles dont on parle.
Absolument. Hein,
avec Abderrahim Mohib, qu'on n'a pas encore entendu aujourd'hui, mais qui est aussi qui est l'auteur senior de notre article.
Ce que nous dit Jean-Paul Rénal sur ces sites de fouilles à Casablanca, qui sont quand même très urbanisés, hein, c'est ce qu'il faut imaginer aujourd'hui, c'est que malheureusement, ça va être très compliqué de continuer à fouiller sur place. Ça, c'est une grosse frustration pour un paléoanthropologue.
C'est surtout un souci de protection de ces sites. Parce qu'on parle des environs de Casablanca. Ce ne sont pas les environs de Casablanca, c'est la ville de Casablanca. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le Beverly Hills de Casablanca, mais pas loin. Hein. Il y a des belles villas autour de ces sites. Le terrain coûte très cher. Et donc, les propriétaires de carrières, leur intérêt, c'est de faire remblayer ces carrières et de vendre le terrain pour la construction.
Mais ça, pour un scientifique, c'est épouvantable, non ?
Ça serait une perte pour le Maroc. De patrimoine absolument inouï.
Mais pour l'humanité aussi, quand même.
Pour l'humanité aussi. Donc, mais c'est le Maroc qui protège ses propres sites. Hein.
Ouais.
Donc, dans le cas de la grotte aux hominidés de la carrière Thomas, je crois que la zone est relativement protégée. Mais on a entendu tout à l'heure Camille Daujard parler de cette grotte des rhinocéros qui est juste à côté. Là, je suis beaucoup moins sûr que ce site survivra à ces projets immobiliers. Donc, je pense que... Enfin, en tout cas, cette publication qui a eu quand même beaucoup de presse, qui a eu un certain impact, et j'oublie pas que la publication sur Jebel Irhoud, ça a quand même attiré l'attention des autorités marocaines jusqu'au palais royal. Hein. Et donc, j'espère que ça sera le cas aussi pour cette publication, et que ça va, dans le fond... renforcer les politiques de protection de ces sites.
Mais ce qui est fou, c'est de se dire que des fossiles aussi précieux qui racontent une histoire aussi étonnante de l'humanité pèsent pas très lourd par rapport à des villas de luxe, quoi. C'est quand même incroyable.
Pour l'instant, on n'en est pas encore là.
Oui, mais bon.
Mais voilà, il faut juste être attentif et attirer l'attention des autorités sur l'importance de ces sites.
Le roi Mohamed VI avait salué Jebel Irhoud, hein, les fossiles de Jebel Irhoud. Il a fait la même chose là avec cela ou pas ?
Alors, Jebel Irhoud, ça m'a valu une médaille par le roi lui-même. Ouais. Bon, il l'a déjà donnée une fois, donc il ne peut pas la donner une deuxième fois.
Est-ce qu'il a salué quand même la découverte, là, ou pas ?
Je ne sais pas.
Bon.
Peut-être.
J'espère qu'il a bien reçu la revue Nature du 7 janvier dernier.
Peut-être que son entourage a bien vu ça passer et en tient compte.
Merci beaucoup, en tout cas, pour cette histoire marocaine, Jean-Jacques Hublin. Je rappelle que vous êtes donc le premier signataire de cette publication de la revue Nature et de cette histoire que vous venez de nous raconter. Merci beaucoup à vous. Merci à Emma Bouvier qui a réalisé, préparé ce dossier. Corentin Rouchy, Laurent Baudouin à la technique, Sybille Clamins à la vidéo et Amazir Amaïdine Guest qui réalisait cette émission.